en compagnie de Gilles Béchard, de la Société des sciences naturelles du Tarn-et-Garonne. J'ai fait exprès de pas mettre de musique, parce que la musique, maintenant, on va en entendre plein, et de la musique naturelle, faite par des virtuoses du chant, les virtuoses du chant qui sont tout à côté de chez nous, qu'on entend tous les jours, les oiseaux du printemps. Il y avait d'ailleurs, le chant des oiseaux, c'est ce compositeur qui avait fait ce chant des oiseaux, là.
Mais je crois que tous les compositeurs ont toujours plus ou moins cherché à imiter la nature, ouais. C'est-à-dire que l'homme a voulu voler parce qu'il voulait imiter les oiseaux ou les papillons, et je crois que la musique aussi, cette espèce de virtuosité innée qu'ont les oiseaux à faire cette espèce de, et puis cet aspect mélodieux des fois, et paradoxalement cette espèce de cacophonie qu'on peut avoir le matin, qui a un aspect si reposant ou si, alors certaines personnes n'iront pas pareil, parce que le premier oiseau qu'on entendra, il m'est arrivé que des jeunes nous appellent pour nous dire j'ai un oiseau qui chante, venez me le sortir du jardin parce que cette nuit j'ai pas pu dormir. Donc voilà, c'est les oiseaux ont des chants sympathiques, mais c'est vrai qu'à 4h du matin, un oiseau qui chante sous sa fenêtre quand on vient de se coucher à 1h du mat et qu'on est un peu fatigué, bon, ça peut passablement énerver.
Alors vous nous avez emmené des chants d'oiseaux, pourquoi on les reconnaisse, de ces oiseaux que l'on peut entendre actuellement. On écoute le premier.
Alors les oiseaux, généralement, il y a trois catégories. Il y a des alertes. Là, c'est une alerte. En fait, l'oiseau est dérangé. On en rentre dans son territoire. Voilà ce qu'il fait. Et voilà. Voilà, alors c'est celui qu'on entend.
C'est le même chant, là, qu'on a entendu.
Voilà, c'est le même oiseau, en fait. Hein, mais là, on est dans le chant. Voilà, alors ça c'est, imaginez-vous, 4h du matin frais, petite rosée, vous levez pour aller à la pêche ou je sais pas, pour aller vous balader, et vous avez ça, voilà. Il chante dans l'air près de chez vous, c'est le rossignol, hein, c'est
le fameux rossignol,
le rossignol de mes amours, voilà, c'est vraiment le virtuose. Alors c'est l'oiseau par excellence pour qui le chant est extrêmement important, parce qu'en fait, nous ornithologues, il est extrêmement rare de voir le rossignol, voilà, c'est un oiseau très difficile à voir. Alors on peut le voir, hein, si on a de la chance, quand on commence à être bon ornitho, on fait de l'affût et tout ça, là on va le voir. Mais c'est vraiment l'oiseau. Voilà, alors ça chante toute la nuit. C'est un oiseau, ouais, qui chante la nuit. Et c'est vrai que des gens nous appellent en nous disant, voilà, vous avez une belle haie auprès de chez vous, là, avec un peu d'eau, un endroit un peu ombragé. Vous avez cet oiseau-là qui chante toute la nuit, ça peut vite devenir agaçant.
Et pourquoi il chante toute la nuit, ce rossignol? Il peut pas dormir comme tout le monde?
Parce qu'il a une activité plutôt nocturne. Ouais. C'est sa façon de fonctionner. Voilà, les oiseaux ont chacun leur... en fait, il y a des oiseaux qui vont commencer à chanter de 5h du matin au crépuscule. Après, ils vont s'arrêter quand le soleil sera levé. On les aura le soir, ils vont revenir. Il y a plein d'oiseaux comme ça qui annoncent, par exemple, le soir tard, le merle commence à stresser un peu, et là, il commence à faire des alertes, et on l'entend chanter le soir plutôt au couchant.
Mais voilà. Ça veut dire qu'ils vivent plutôt la nuit, ces oiseaux? Le rossignol, c'est plutôt un oiseau nocturne.
Il a plutôt une activité nocturne. D'ailleurs, il fait souvent sa migration comme ça. Donc, c'est vraiment des oiseaux qui ont plutôt une activité nocturne. Et puis, le chant, c'est pour cet oiseau-là, c'est une notion de marquage de territoire. C'est pour ça qu'il chante aussi abondamment. Et paradoxalement, plus il y a d'oiseaux, plus il chante. Parce qu'il veut, machin, il dit, ouais, je suis chez moi, t'as vu, je suis chez moi. Et l'autre à côté dit, oui, mais regarde, moi, je suis chez moi. Et là, ça va jusque-là. Donc, c'est un peu, voilà, notion de... On détermine sa position dans la haie ou dans l'endroit où on vit, quoi.
On écoute un autre oiseau du printemps.
Alors là, pareil, une alerte.
On dirait un singe, celui-là.
Toujours pareil, alors ça... on est rentré chez lui, on le dérange. Et donc, il signale à tout le monde, et à ses congénères, que... Voilà.
Et c'est le même, là.
Et c'est le même. Et souvent, on ne sait pas que c'est lui, hein. C'est-à-dire que si on ne connaît pas les cris des alertes... Et ça, c'est le loriot.
C'est le loriot.
Pareil, ouais. Un oiseau magnifique, hein, qu'on a... très peu l'occasion de voir, hein. On peut le voir passer furtivement, une espèce de flamme jaune là qu'on voit passer d'aller d'arbre en arbre, hein. Alors on va le trouver plutôt dans les grandes peupleraies, des endroits un peu humides, en lisière de forêt, voilà. Et là, il fait son chant typique, voilà. Alors il y a après aussi le cri et le chant des jeunes. Il peut y avoir des imitations aussi d'autres oiseaux. Il faut savoir que des fois on rentre en forêt, on n'a pas un bruit. Et on ne sait pas pourquoi une biche qui est au loin, malgré qu'on n'ait pas fait de bruit, ça me va, on est en ça. Il faut savoir qu'on est vite repéré si on fait pas attention. Tous ces petits bruits qu'émettent les oiseaux aux alentours pour dire voilà, ils ont déjà signalé notre présence. C'est-à-dire toute la forêt, c'est un peu comme on le voit souvent imagé dans des dessins animés où tout le monde, quand quelqu'un rentre dans la forêt, tous les oiseaux se parlent entre eux et le bruit se propage comme quoi quelqu'un est rentré dans la forêt. Ben c'est véritablement comme ça. Il y a plein d'oiseaux qui donnent des alertes et on sait que quelqu'un est rentré, ou même si vous postez un endroit, juste en écoutant les oiseaux, vous pouvez arriver à savoir si il y a du mouvement mammifère qui bouge ou quelque chose, parce que si ce mammifère-là est prédateur des oiseaux, ben paf, ça va alerter, comme un système d'alarme dans la forêt.
Un autre oiseau du printemps.
De la même façon, une alerte, on le dérange. Alors voilà un des oiseaux qui pose problème aux ornithologues. Parce qu'il a tendance à imiter les chants des autres oiseaux. Voilà. Là, il imite les chants de fauvettes, c'est l'imitation des chants de fauvettes grisettes. C'est un oiseau qui s'appelle, un oiseau migrateur, qui s'appelle l'Hippolaïs polyglotte. Donc, il n'invente pas son nom. C'est un oiseau très commun, hein. On le trouve partout dans en campagne, les endroits un peu ouverts. Voilà. Et cet oiseau-là, il imite littéralement les chants d'autres oiseaux. Alors, le seul moyen de déterminer que c'est lui, c'est d'attendre le début de son chant. Et en début de son chant, il a trois trilles qui se répètent. Tac, 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 tac. Et hop, et ensuite, il enchaîne sur l'imitation. Mais à chaque fois, il fait ça. Voilà. Il faut savoir que les oiseaux pratiquement disent, si on prend un pinson, par exemple, qui chante à Dax, à Toulouse, ou dans le nord chez nos amis les ch'tis, il va dire la même phrase. Mais par contre, il va avoir un accent différent. Voilà, ça a été prouvé.
Ah ouais.
Les oiseaux ont un accent. On n'est pas les seuls. Il y a même des disparités entre des massifs forestiers. Par exemple, un oiseau qui chante à la Grésine, un pinson n'a pas le même chant qu'un pinson qui chante à la forêt de Montèche, par exemple. Voilà. Le phrase est le même.
La phrase est la même.
La phrase est la même, mais l'accent n'est pas le même.
Un autre oiseau. Alors celui-là, il avait un nom compliqué quand même. Hein. Il s'appelle comment ?
Je ne me rappelle plus. J'ai donné les chants, donc voilà, je les connais les chants.
Ouais. Celui qu'on vient d'entendre là.
Ah, celui, ça c'est Hippolaïs polyglotte.
Hippolaïs polyglotte.
Et pourtant, c'est un oiseau très commun. Hein. C'est un oiseau très commun.
Il a pas un nom genre merle ou.
Ah non non non.
Un
c'est
nom commun. Il a pas de nom commun.
C'est son nom commun. C'est Hippolaïs polyglotte. Alors ça, je l'ai mis parce que c'est un oiseau qui nous arrive de voir, plutôt d'entendre et de jamais voir. Pareil, parce que ça passe très très haut. Et on les a en migration, et ici on est une zone de passage migratoire assez importante. Les gens me disent, oh, j'ai vu passer des oies, je les ai entendus chanter. Si vous entendez ça, ce ne sont pas des oies, ce sont des grues. Voilà. Et il en passe ici des quantités assez importantes, hein. On peut avoir jusqu'à 5000 ou 6000 passages d'oies. De grues,
les oies passent aussi. Hein.
Alors les oies passent. Moi, personnellement, ça fait pratiquement une vingtaine d'années que je fais de l'ornithologie et j'ai pratiquement jamais vu passer d'oies. Alors à part en migration à Saint-Nicolas posé, voilà. Mais en vol, des grands vols comme on voit passer les grues, par exemple, avec 50, 100 oiseaux, j'en ai pratiquement jamais vu.
Ah là, elles sont nombreuses.
Ah là, elles sont nombreuses. Voilà, c'est une population en hivernage et là, bon, il y a peut-être 5000, 6000 oiseaux, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est généralement ici, nous, les passages les plus importants, c'est en novembre, et on entend ça passer la nuit en pleine nuit, quoi. Voilà, ça c'est des vols migratoires. Et vous entendez ça dans la nuit, c'est rien que moi de l'entendre, ça me donne des frissons. Mais bon, moi, je suis ornitho, c'est pas pareil, donc voilà. Mais c'est vrai que ça c'est vraiment un appel de nature. Hein.
Alors ça, c'est les oiseaux de passage.
Hein. Voilà.
On continue un autre chant d'oiseaux. Ah, il est connu celui-là.
Voilà.
Il faut avoir une pièce de 5 francs dans sa poche quand on l'entend.
Ah, le, ça, oui, c'est bon, ça, je savais pas, parce que
c'est le coucou, non?
Ah, oui, c'est le coucou.
Et, ouais, si on a une pièce de 5 francs dans sa poche,
d'accord,
ça va nous apporter,
d'accord,
la richesse.
Ah, oui,
et
voilà,
la chance.
Voilà, il y a tout un tas de croyances comme ça. Il y a un très beau livre, d'ailleurs, qui est un livre sur l'étymologie des noms d'oiseaux, qui explique un peu tout ça, toutes ces croyances qu'on a par rapport aux oiseaux et comment les, voilà, là, il est énervé. Là, il faisait, voilà, ça, c'est.
Là, c'est lui aussi.
C'est toujours lui, oui. Ah.
Il fait pas que coucou, quoi.
Ah non, il fait pas que coucou, hein. C'est-à-dire, si vous l'énervez un peu, il va se mettre à faire ça. Voilà, vous avez, voilà. Là, il est énervé. Là, il est pas content, il vous tourne autour, c'est parce que vous l'avez imité, ou parce qu'il y en a un qui chante. Et là, il se dit, attends, la femelle est là. Voilà, là, il est pas content. Hein. Attends, ça c'est ma copine, laisse-la tranquille. Voilà, c'est un peu ça. Hein.
Et alors le coucou, c'est lui qui pique les.
Alors lui, il va
les nids des autres, hein, c'est
voilà,
ça.
Voilà, ouais, il va s'installer. En fait, il va pondre son œuf dans le nid d'autres oiseaux. Et puis dès que le poussin va naître, en fait, qui est généralement en avance sur la nichée, ben il va prendre les œufs sur son dos. Et il fout tout ça par-dessus bord et il se fait nourrir. Alors généralement, comme la taille du coucou, il pirate souvent des nids de merle, des trucs comme ça. Et donc la taille du coucou est quand même relativement plus importante que celle de merle. Et pour nourrir le petit qui est assez vorace, les allers-retours sont conséquents. Voilà.
Et les parents, ils voient rien, ils voient pas que c'est celui du facteur.
Ben voilà, non. C'est vrai que c'est pour ça. Ben là, c'est aussi ça nous a appris sur les oiseaux et leur comportement par rapport aux petits. Voilà. Autant une dans des colonies d'oiseaux comme j'expliquais, il peut y avoir c'est fréquent chez les sternes comme ça. Si vous avez 20 couples qui nichent et vous avez 30 petits, quand la femelle va arriver, elle va reconnaître son petit, elle va savoir le nourrir. Voilà, parce qu'elle sait reconnaître au champ. Mmh. Voilà. Et à côté de ça, elle pourra adopter d'autres petits. Si jamais d'autres petits réclament, elle va pouvoir le leur donner. Mais il y a quand même une notion de territoire et de reconnaissance vocale. Voilà.
Encore un autre, allez.
Ça aussi, c'est un oiseau typiquement de si on écoute ça le matin, tôt, là, une petite brume sur la campagne rase. C'est un oiseau magnifique, c'est la huppe faciée. Alors, son nom latin, c'est Hippupa hippops, qui tient un peu de son chant. Ce fameux pou pou pou, pou pou pou. Voilà. Alors, c'est un oiseau magnifique, mais alors, s'il niche à côté de chez vous.
Et là, il s'énerve, là.
Voilà, il est pas content. Mais les nids, les gens qui ont des nids de huppe à côté de chez eux, ça fait un bruit. Ça, c'est les jeunes. C'est les cris des jeunes. Ah donc il y a tout ça à apprendre, vous voyez, quand on apprend les chants d'oiseaux, parce que bon, on essaye de, il y a une série de 4 CD, maintenant il y a même une série de 10 CD qui est éditée. Vous avez les informations sur notre site, Société des Sciences Naturelles, hein, c'est cntg82.com. Vous avez la liste de enfin, les endroits où vous pouvez acheter ces CD, et ça permet d'apprendre et de connaître les chants d'oiseaux.
Alors, il y a souvent des gens qui aimeraient avoir dans leur jardin des oiseaux qui viendraient picorer comme ça. Et d'abord, est-ce que c'est bon d'attirer les oiseaux dans son jardin? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut pas le faire? Et si on a envie de le faire pour égayer à la limite sa devanture, qu'est-ce qu'il faut mettre? Une petite maison avec un peu de beurre?
Alors il faut savoir que tout ce qui est nourrissage, ça doit être fait pendant l'hiver, jamais pendant le printemps, hein. Il faut savoir que les oiseaux, ils doivent se nourrir seuls. Donc au printemps, tous les nourrissages doivent être arrêtés parce que ça apporte plus de mal que de bien. On soutient de façon c'est-à-dire on va l'oiseau doit apprendre à se nourrir seul, ça fait partie de son éducation, et si on nourrit un oiseau à longueur d'année, ben le jour où vous partez, vous allez vous installer ailleurs, faut savoir que toute la colonie que vous avez nourrie, c'est fini, quoi. Oui, vous avez
fait ça. Elle ne sait pas se nourrir par elle-même.
Sans
donc,
vous, elle a été soutenue de façon anormale. Et si vous êtes plus là, tout le système s'écroule. Ouais. Voilà. Donc ensuite, c'est le milieu. Si on veut des oiseaux au printemps ou en été, il faut privilégier le milieu, c'est-à-dire faire des haies, faire des endroits un peu où les oiseaux peuvent se cacher, se remiser. Les chats, c'est pas super conseillé. Bon, voilà. Il faut pouvoir aussi avoir des arbres qui apportent des baies, alors du sureau, des troènes, tous ces arbres là qui vont des mûriers, toutes ces espèces. Alors privilégier les espèces endémiques, mon Dieu, c'est vrai que dans les pépinières c'est bien, on a, mais essayez de trouver. Alors je crois qu'il y a Campagne Vivante qui fait ça, qui est à je dirais des bêtises, je crois que c'est du côté de Verdun, mais je sais qu'ils sont sur le net aussi. Ils peuvent vous mettre des haies subventionnées qui sont avec des espèces endémiques, vraiment, avec des arbres qui sont du coin, qui sont peut-être un peu moins glorieux au niveau de la présentation, peut-être moins de fleurs, comme ça, mais bon, même, vous pouvez mettre du, même si le but des gars, il y a un peu.
Enfin, il faut voilà des arbustes comme ça qui vont faire que les oiseaux vont.
Il faut fermer
un peu
le milieu. Voilà, il y a des endroits il faut faire fermer, il faut ouvrir d'autres endroits. Et puis bon, il faut savoir qu'on peut pas tout avoir dans son jardin. Moi, je considérerais que mon jardin sera bien fini à l'endroit où je me trouve quand j'aurai le rossignol. C'est le seul que j'ai pas encore. Donc, il me manque encore une bonne haie bien fermée, un endroit un peu humide. Et voilà, quand il viendra m'empêcher la nuit de dormir, je serai le plus heureux des hommes.
On en écoute encore.
Alors je soupçonne des fois de me mettre aussi des chants que je connais pas pour essayer de voir si jamais je les bosse ou pas. Alors ça c'est une alerte aussi. Alors c'est Calimicole. Ça c'est un oiseau qui n'avait pas sur ma liste, a priori.
Ça y est, elle triche, c'est Geneviève. Je lui ai dit, tends-lui quelques pièges pour voir s'il est vraiment
alors,
si bon.
Peut-être, je sais pas. C'est, ouais, c'est Calimicole. J'avoue que je... J'ai peut-être le gravelot, peut-être.
Ah,
avec les pieds d'Europe. Oh.
Voilà.
Alors là, mais à coup de pas, mais c'était, pas, c'était, la fin, c'était le chant en entier.
Ah, c'est peut-être pas.
Ouais, c'était les chants des jeunes, peut-être. Et ça, pareil, c'est un oiseau qu'on a en migration. Alors, pareil, un oiseau qu'on verra pratiquement, enfin, qu'on voit quand il niche, hein. Mais par contre, qui passe en migration ici, hein, qu'on a, alors, sur Saint-Nicolas, on a quelques colonies, Castelmayran et tout ça. On a, quelques oiseaux qu'on trouve aussi en passage migratoire, enfin, des grosses quantités qui passent au-dessus. Et pareil, c'est un oiseau qui passe en migration très très haut. Et qu'on va entendre on va entendre que le chant, en fait. Voilà. Alors, il y a aussi cette notion, alors ça, c'est à ma décharge, c'est pour, nous, ornithologues, et ça, c'est un phénomène avéré, hein, on associe souvent les chants à un milieu. Par exemple, quand on va faire de l'ornithologie et qu'on écoute un oiseau et qu'on l'entend chanter dans un autre milieu qu'on a l'habitude de le trouver, par exemple, si on va se balader sur le Narbonne, comme ça, on entend chanter l'oiseau, on a un petit moment d'acclimatation pour re-rentrer l'oiseau, parce qu'on stocke, on fait un peu comme ces gens qui font des jeux de mémoire, là, ils font des associations mémotechniques, hein, c'est-à-dire on va stocker le milieu par rapport à l'oiseau, par rapport à l'espèce. C'est un peu comme si on entend un copain à un endroit où on n'a pas l'habitude d'entendre, ben, on va pas forcément le reconnaître.
Allez, il nous reste quoi? Une petite minute, il nous faudrait encore un oiseau.
C'est le petit dernier, je crois que c'est celui-là, c'est pour la rigolade. Alors voilà, alors ça c'est une des curiosités de la nature, c'est un chant de parade. Voilà. Et l'oiseau le fait bien avec son bec, hein, je tiens à le préciser. C'est la grande outarde. Voilà.
Je nous le remets, Geneviève, s'il te plaît.
Ah, c'est vraiment.
Et alors, c'est la grande moutarde.
Là, c'est la grande outarde. Voilà. Mais quand on la cherche, mon copain, on est allé chercher avec un copain en Espagne, on l'appelait la moutarda.
On l'écoute.
Ah, c'est quelque chose.
Comme quoi les chants d'oiseaux c'est pas toujours
très romantique, hein. Voilà, et c'est vrai, c'est pas du montage, c'est vrai, c'est un oiseau qui a disparu, hein, qui était en France à une certaine époque, qui vit dans les grandes steppes qu'on retrouve en Espagne. Et sa parade, alors elle se recourbe tout en arrière, c'est une espèce de gros dindon qui se recourbe en arrière et elle fait ce chant là pour plaire à son ami, à sa belle amie. Donc, messieurs.
Voilà. Ben merci Gilles Béchard de nous avoir fait découvrir quelques chants des oiseaux du printemps. Quelle est l'activité là de la Société des sciences naturelles du Tarn-et-Garonne? Vous partez en balade un petit peu?
Oui, alors la prochaine sortie, je crois que c'est sur les orchidées. Ça va être du côté de Gossou, là, à côté de la Vorette. Là, on va faire un endroit où on fait 25 orchidées dans la journée, 25 espèces d'orchidées sauvages. Il faut savoir qu'il y en a une cinquantaine sur le département, donc ça fait 50% du cheptel du Tarn-et-Garonne. Une journée conviviale toute la journée. Alors j'invite vraiment les jeunes de cette fond et tout ça. C'est vrai que cette année on va faire un effort pour prévenir un peu tous les jeunes du CRU là, COSA de cette fond, pour leur dire venez voir un peu tout ça. Et puis après, ben nous on a tous les habitués, tous les gens qui viennent département extra-départemental pour faire cette sortie qui est au mois de mai. Je me rappelle pas exactement la date, mais en fait vous l'avez sur notre site sssntg82.com. Il y a toutes les sorties sorties, toutes nos animations et toute l'actualité de l'association.
Voilà, puis vous viendrez nous faire découvrir les chants des orchidées le prochain coup.
Voilà, voilà.
Merci beaucoup Gilles Béchard, à bientôt.
Merci.